VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon. Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a suspendu le patron du fisc afin de restaurer au plus vite la crédibilité de l'institution publique. Monsieur Ramaphosa a demandé à Monsieur Moyane de démissionner, ce qu'il a refusé selon un communiqué de la présidence sud-africaine. Le président a alors décidé de le suspendre avec effet immédiat. Le chef de l'État sud-africain s'est engagé à renverser le cours de la corruption à la tête de l'État, alors que la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma a été éclaboussé par plusieurs scandales. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé la mise en place d'une 4e République à l'ouverture hier d'un forum sur les réformes institutionnelles. La rencontre est boycottée par l'opposition et une bonne partie de la société civile. Le point Abdou Ramandia.
Le Forum national sur les réformes institutionnelles, les premières depuis l'adoption de la Constitution de 1996, s'est ouvert avec plus de 700 participants, dont l'ex-président Gukuni Wede, des chefs religieux et traditionnels, des membres du gouvernement et de la diaspora. Il doit durer jusqu'au 27 mars et devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans renouvelable une fois, à la création d'un Sénat ou à la refonte des régions. Pour le président Idriss Déby Itno, il s'agit de la naissance de la 4e République. Ce forum est un lieu privilégié pour Déby de prolonger son régime, a déclaré depuis Libreville l'opposant Saleh Kebzabo, qui a boycotté l'événement. Une partie de la société civile envisage d'organiser un contre-forum le 23 mars pour étaler les objectifs de Déby. Pays pétrolier d'environ 15 millions d'habitants, le Tchad a connu 2 mois de grève des fonctionnaires qui protestaient contre des mesures d'austérité. Un accord syndicat-gouvernement a été trouvé la semaine dernière.
Le Niger a décidé d'interdire à ses ministres et députés de se faire soigner à l'étranger, sauf absolue nécessité, afin de réduire les coûts de santé de ses personnalités. Dorénavant, les ministres, les députés et toute autre personnalité vont se faire soigner aux frais de l'État à l'hôpital général de référence de Niamey, un complexe hospitalier construit par la Chine, a affirmé le ministre de la Santé, Idi Iliassou, à la télévision publique. Un haut fonctionnaire de l'administration camerounaise enlevé samedi a été libéré hier. Le directeur de l'Office anglophone des examens, Ivo Leketambo, a été enlevé samedi par des agresseurs non identifiés, non loin de Liwo, dans la région du sud-ouest, l'une des 2 régions du Cameroun anglophone, selon des sources sécuritaires. L'enlèvement de M. Leketambo n'avait pas été confirmé par les autorités camerounaises jusqu'à sa libération. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir ignoré les mises en garde répétées sur les mouvements de combattants de Boko Haram dans l'état de Yobe quelques heures avant et après l'enlèvement de 110 jeunes filles dans leur école de Dapchi, dans un rapport publié ce mardi. L'Organisation de défense des droits de l'homme assure que les forces militaires avaient été alertées sur la présence de groupes djihadistes lourdement armés dans les environs et qu'elles ne sont pourtant pas intervenues. Ce drame s'est déroulé dans des circonstances quasi identiques au kidnapping de Chibok en avril 2014, où plus de 200 lycéennes ont été enlevées, déclenchant une vague d'émotion mondiale. Vous suivez la Voix de l'Amérique. Au moins 8 personnes ont péri dimanche et lundi dans des violences entre les communautés Peulé Dogon dans le centre du Mali. Le village de Sabéré à 25 km de Koro a été brûlé et détruit suite à ces violences intercommunautaires, ont indiqué dans un communiqué les forces armées maliennes, les FAMAS. Les violences se multiplient depuis 2 ans dans le centre du Mali entre Peul, traditionnellement éleveur, et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Elles avaient fait au moins 25 morts depuis le début du mois de mars. Et le Canada va déployer pendant 1 an une force d'appui aérienne et des casques bleus dans le cadre de la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali. C'est le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, qui l'a annoncé hier.
La date du déploiement sera fixée après consultation avec l'ONU, a dit M. Sajjan lors d'une conférence de presse hier à Ottawa. Selon lui, la force opérationnelle aérienne comprendra des hélicoptères Chinook pour assurer une capacité urgente de transport et de logistique pour la MINUSMA et des hélicoptères Griffon pour assurer une escorte et une protection armée. Aussi, des militaires canadiens seront déployés sur le terrain avec l'objectif d'avoir un contingent à parité entre hommes et femmes. Le Canada avait exprimé en novembre sa volonté de mobiliser 200 soldats pour des missions de maintien et de favoriser la présence féminine au sein des casques bleus. Ce déploiement au Mali sera la première mission de paix des forces canadiennes en Afrique depuis celle avortée au Rwanda pendant le génocide. Créée en 2013, la MINUSMA compte environ 12 000 casques bleus. Plus de 150 soldats de l'ONU ont été tués au Mali, ce qui en fait la mission onusienne la plus dangereuse au monde.
Et les éléments se déchaînent sur la grande île. La tempête tropicale Eliakim qui a frappé la semaine dernière le nord-est de Madagascar a fait 20 morts et près de 19 000 sinistrés selon un nouveau bilan officiel publié hier soir. La tempête a également fait près de 9 000 déplacés et plusieurs routes nationales ont été coupées par les pluies. Eliakim a touché vendredi la péninsule de Maswala dans le nord-est de Madagascar et s'est ensuite déplacé vers le sud le long des côtes malgaches. Et mauvaise nouvelle pour les amoureux de la faune africaine, le dernier rhinocéros du Nord blanc est mort au Kenya à l'âge de 45 ans, ne laissant plus en vie que deux femelles de cette sous-espèce. Nommé Sudan, le rhinocéros avait depuis longtemps des problèmes de santé liés à son âge. L'équipe vétérinaire a pris la décision donc de l'euthanasier, selon un communiqué publié par la réserve Ol Peteja du Kenya où il vivait. À Washington, il est 7h06.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro en direct de Washington. Amnesty International a appelé le Pakistan à prendre des mesures pour résoudre des centaines de cas de disparition forcée survenues ces dernières années et pour lesquelles personne n'a jamais eu à rendre compte. Les disparitions touchent des blogueurs, des journalistes, des étudiants, des militants pour la paix et les droits humains. Le Pakistan a connu une vague de disparitions forcées depuis une dizaine d'années, principalement dans les zones de conflit près de la frontière afghane ou au Baloukistan qui abrite des mouvements insurgés et séparatistes. Mais le phénomène s'est depuis étendu à d'autres grandes villes et provinces du pays. L'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy a été placé ce matin en garde à vue dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Monsieur Sarkozy, président de la France de 2007 à 2012, est entendu donc pour la première fois dans cette enquête par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Nanterre, c'est près de Paris. Le président américain Donald Trump reçoit ce mardi le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, l'occasion pour lui de dénoncer le grand rival iranien, mais aussi de se positionner sur les spectaculaires changements introduits dans le Royaume sunnite. Le prince va prolonger ensuite sa visite aux États-Unis avec une tournée de près de 3 semaines dans plusieurs villes américaines. C'est une offensive de charme tous azimuts. Morgan Ziguiriek.
Après Washington, le nouvel homme fort de Riyad, 32 ans, ira samedi à Boston. Le 26 mars, il sera à New York pour rencontrer les milieux financiers avant l'entrée en bourse du groupe pétrolier saoudien Aramco. Il est prévu aussi un entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il est ensuite attendu sur la côte ouest à Los Angeles et San Francisco auprès des géants des nouvelles technologies comme Google et Apple et un autre géant de la défense comme Lockheed Martin. Il se rendra à Seattle, au siège d'Amazon, et à Houston, capitale de l'industrie pétrolière, alors que le premier exportateur mondial de brut veut diversifier son économie. « Nos relations avec les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes », a déclaré hier le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Joubeir. Devant la presse à Washington, il a estimé que les deux alliés ont des visions pratiquement identiques sur de nombreuses crises régionales, comme au Yémen, en Afghanistan, et sur le rôle jugé négatif de l'Iran au Proche-Orient.
Et puis, pour terminer ce journal, la Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui que leurs exercices militaires conjoints annuels reportés pour cause de Jeux olympiques d'hiver au sud reprendraient à une échelle semblable à celle du passé, malgré le dégel diplomatique avec Pyongyang. Ces manœuvres à grande échelle impliquent le déploiement de dizaines de milliers de troupes au sol et ne manquent jamais de provoquer des tensions sur la péninsule. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, les considère comme la répétition générale de l'invasion de son territoire. Des discussions sont en cours en vue d'un sommet entre les deux Corées qui serait suivi par éventuellement par un face-à-face entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous aurez en direct donc Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.